La revue de presse internationale de Camille Manière. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ce matin en Hongrie, au lendemain d'élections municipales qui ont vu la capitale Budapest échapper aux partisans du Premier ministre Viktor Orban.
Oui, c'est un véritable glissement de terrain politique s'enthousiasme en une le journal en ligne Index, l'un des rares groupes de médias en Hongrie qui échappent encore au contrôle de Viktor Orban et de son parti, le Fidesz. Glissement vers le centre-gauche, en l'occurrence Budapest, à un nouveau maire d'opposition âgé de 44 ans, issu du militantisme écologiste, pro-européen et libéral, Gergely Karácsony. Et ce matin, dans la presse hongroise libre, le visage d'un nouveau phénomène. Cette croyance validée par les urnes hier que l'ordre autoritaire et nationaliste incarné par le Fidesz peut être contesté. La victoire est d'autant plus belle, poursuit Index, qu'elle est vaste. 9 arrondissements de Budapest ont été reconquis au parti du Premier ministre. L'opposition va disposer d'une majorité stable pour vraiment faire de la capitale la figure de proue de son offensive politique nationale pour chasser Viktor Orban à terme du pouvoir, donc au niveau de tout le pays. Au-delà de Budapest, lit-on sur le site du Eti Villa Gazdaság, pardon, c'est pas facile.
Non, là je peux pas vous
mais on y arrive, le Eti Villa Gazdaság. Une dizaine d'autres centres urbains hongrois d'importance nationale sont passés à l'opposition comme Pécs, Eger ou encore Miskolc. Mais qu'on ne s'y trompe pas, temporise tout de même le quotidien Magyar Hírlap, le Fidesz reste majoritaire dans plus de 70% des grandes villes hongroises et il l'est encore plus dans la Hongrie rurale.
C'est d'ailleurs l'un des enseignements de ces élections, le décalage qui s'accentue entre le vote des villes et le vote des champs.
Avec à la clé un dilemme pour Viktor Orban, dilemme décrypté pour nous par Valérie Hopkins, la correspondante du Financial Times à Budapest. Il y a d'un côté la tentation dans le camp du Premier ministre de faire ce qu'il a toujours fait ces dernières années au pouvoir, c'est-à-dire d'axer sa politique sur le pays rural pour soigner cet électorat acquis et de l'autre côté punir ceux qui ne votent pas pour lui, par exemple en faisant voter une loi qui réduirait les pouvoirs des grandes métropoles. Sauf que, cette fois-ci, le Fidesz commence à avoir peur du mouvement de rejet qui s'affirme contre lui et sa politique autoritaire jugée par trop arrogante par de plus en plus de Hongrois. Peur aussi de cette opposition qui s'est pour une fois unie très largement, allant même jusqu'à fédérer le soutien du Jobbik, petit mais très virulent parti d'extrême droite, en voie, nous dit-on, de recentrage politique. Alors Viktor Orban, eh bien, fait profil bas pour le moment, en tout cas, l'hebdomadaire HVG s'étonne d'ailleurs du fait qu'à Budapest, le maire sortant issu du Fidesz a très rapidement et très clairement reconnu sa défaite hier soir. En fait, le camp Orban a pris conscience hier qu'il est pris au piège. Il ne veut pas donner du grain à moudre à cette opposition qui pourrait contester son pouvoir, sinon à cette élection, peut-être sûrement à la prochaine. Alors, il joue les bons perdants à Budapest et il joue surtout sa meilleure carte, laisser l'opposition diriger la capitale en sachant que, vu l'hétérogénéité de cet attelage qui va des anciens communistes aux ultranationalistes plus ou moins repentis, on l'a dit, de Jobbik, eh bien il y a de bonnes chances que l'expérience d'opposition à Budapest se retourne finalement contre ses nouveaux maîtres.
Une île dans l'impasse à présent, c'est Haïti, qui traverse depuis la fin août une crise sans précédent, Camille.
Oui, une crise sans précédent, une île dans l'impasse, ce sont les termes employés par Étienne Côté-Paluc, reporter du journal québécois La Presse, qui est à Port-au-Prince en ce moment. Port-au-Prince et Haïti secoués depuis un mois et demi par des manifestations quasi quotidiennes et violentes à l'image de la violence du ressentiment populaire contre le président Jovenel Moïse. Contesté depuis son élection il y a 2 ans, le chef de l'État est devenu, dans l'esprit de milliers de manifestants, l'incarnation de tous les maux qui frappent l'île, la vie chère, les pénuries de carburant, une gouvernance défaillante, une corruption abyssale, une pauvreté que l'on ne retrouve à cette échelle nulle part ailleurs en Amérique. Mais hier, nous dit Jacqueline Charles pour le Miami Herald, les affrontements qui étaient devenus la norme autour des défilés réclamant la démission du président Moïse, eh bien ces affrontements ont laissé la place à une ambiance de carnaval. Hier, dimanche, ce ne sont plus les syndicats, les partis politiques ou les universitaires qui appelaient à manifester. Non, c'était les artistes et chanteurs populaires haïtiens. Voilà, il faut voir cette vidéo tournée par la reporter de Voice of America, Sandra Lemaire, Pour comprendre l'importance de cette manifestation-là, pacifique, festive, avec cette foule en t-shirt blanc venue reprendre l'hymne de la mobilisation Jojo Dami Deya, mais aussi crier les slogans que l'on entend à Port-au-Prince depuis un mois. Mais cette fois, insiste donc le nouvelliste, dans la bonne humeur et sans incident majeur. Un seul message, Jovenel Moïse doit partir et plus largement il faut changer de système, ne pas laisser un autre Jovenel Moïse s'installer au pouvoir, résume le rapport vedette isolant. Pour comprendre l'ampleur de cette remise en question d'un système qui n'a jamais réussi à sortir l'île de l'urgence humanitaire, eh bien, on relira cette enquête du Guardian publiée avant le week-end mais qui dresse le terrible bilan de l'aide américaine à Haïti depuis le séisme de 2010. Promesses non tenues, millions de dollars détournés, mis sous tutelle de fait de la politique haïtienne, le bilan, près de 10 ans plus tard donc, est sans appel. Et c'est, nous dit Jacob Kushner du Guardian, donc celui d'une vision totalement néolibérale de l'aide humanitaire, avec implication des grandes entreprises américaines qui devaient construire un nouveau port, une centrale électrique pour donner, moyennant retour sur investissement bien sûr, un avenir radieux aux Haïtiens. De tout cela, rien n'est arrivé et les Haïtiens en ont assez d'attendre. Ils l'ont dit hier en chantant et en dansant, mais faute de réponse de leur président aux abonnés absents, les prochaines manifestations cette semaine pourraient être beaucoup moins bon enfant.
Merci beaucoup Camille Magnard pour cette revue de presse internationale. On la retrouve sur le site de France Culture, franceculture.fr.